Les professionnels en ressources humaines s'intéressent de plus en plus à ce phénomène qu'est le dopage cognitif, selon une étude anglaise qui a été conduite dans une quinzaine de pays, dont le Canada. Il y a 14 % des employés qui ont eu recours à un stimulant pharmaceutique non prescrit. Ça fait quand même pas mal de monde. On se pose cette question, c'est quoi ça, le dopage cognitif au travail? Et elle est bien placée pour nous répondre, c'est la présidente du réseau Annie RH, Annie Boilard. Bonjour!
Bonjour Valérie!
Pourquoi les employés ont recours à ce genre de substances-là non prescrites au travail?
Oui, parce que c'est important, c'est pas sans incidence non plus de prendre ce qui sont des médicaments pour des gens qui ont des pathologies, mais de le prendre sans supervision médicale, sans prescription, pour d'autres fins, notamment et principalement pour se donner soit de l'énergie au travail ou accroître sa concentration. Parfois, c'est diminuer son stress, parfois c'est stimuler sa créativité. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens utilisent de telles substances, mais toujours est-il que c'est loin d'être ce que nous souhaitons. Donc, Valérie, de tous les temps, les travailleurs ont utilisé des substances pour se réveiller un petit peu le matin. Je sais que c'est moins tes habitudes à toi, mais nombreux sont ceux qui commencent la journée avec un bon café chaud.
Ah, mais moi, je m'entraîne, c'est un autre genre de drogue.
Bon, c'est probablement mieux pour la santé. Il y a des gens qui utilisent des boissons énergisantes, des vitamines. Bon, ça, bien connu, mais là, c'est pas de ça dont on se parle. C'est des choses qui sont beaucoup plus importantes en termes d'effets secondaires. On se parle ici d'un caplet de Ritalin, du propranolol. On se parle de, comme on disait, des substances pour la créativité. Donc, c'est des vraies médications.
Bon, ça, qu'est-ce que ça peut, de là, te dire, réveiller, être plus performant, tout ça, ça peut pas juste être beau, là. Il doit y avoir aussi des avantages à tout ça. Il y a des risques, là.
Exactement. Et c'est pour ça que nous en parlons, Valérie. D'abord, les gens qui consomment ces médications sans avoir les pathologies associées avec vont avoir trois effets. La première chose, c'est que l'effet des médications est plus éphémère que ceux qui ont la pathologie. La deuxième chose, les effets secondaires, eux, sont accrus. Et la dernière, c'est que les gens vont réaliser qu'ils ont besoin d'augmenter rapidement leur posologie pour garder le même effet. Autrement, l'effet diminue. Donc, ils nous parlent d'effets secondaires. Les gens qui utilisent de telles médications témoignent d'insomnie, de perte d'appétit, de fatigue. Et on le sait, Valérie, quand on se parle de ça, ça devient de l'irritabilité, de l'impulsivité. Et on est en train de créer le berceau pour des tensions relationnelles, voire de donner naissance à des conflits ultimement. Ça, ce sont les effets secondaires. Puis là, tantôt, je t'en ai pas parlé, mais il y a aussi tous les bêta, toute la grande famille des médications sur les bêta qui ont pour but de venir diminuer les effets cardiaques. Mais ça, l'effet secondaire de ceux-là, c'est la diminution de la pression artérielle. Donc, tout ça pour dire, là, les effets secondaires, il n'y a rien de sympathique là-dedans.
Comment on commence à prendre ça? Comment on s'initie à ce genre de situation-là?
Oui, c'est d'abord souvent la curiosité qui est le premier initiateur. Et là, Valérie, avant d'en parler à ton micro, évidemment, moi, je me suis beaucoup posé la question parce que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de faire la promotion de ces comportements. Donc, mais on contribue indirectement avec la curiosité. Mais concrètement, moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, la façon dont c'est entré dans les équipes, c'est deux chemins. Le premier, ce sont nos étudiants qui ont usé les bancs d'école, souvent universitaires, qui ont développé une habitude de consommation de ces médicaments. Malheureusement, aussi une certaine normalité, parce qu'eux ont vu beaucoup de collègues en prendre, puis ils en parlent ouvertement. Ils arrivent dans nos milieux de travail, continuent avec les mêmes habitudes de consommation, puis la même légèreté par rapport aux propos. Tu sais, ils en parlent assez ouvertement, ce qui crée de la curiosité. Puis le deuxième chemin que je vois, ce sont des parents qui ont consulté pour leurs enfants pour des fins de TDAH, qui, après avoir reçu un diagnostic et une prescription, sont un petit peu titillés par la partie héréditaire de la patente. Fait que des fois, l'accessibilité, c'est facile d'essayer de prendre un caplet dans le pot de son enfant puis de voir quel impact ça a sur eux. Puis des fois, c'est comme ça que ça commence aussi.
Est-ce qu'il y a des industries qui sont plus impactées que d'autres?
On n'a pas beaucoup d'études encore sur le sujet, mais Le Devoir a publié des informations sur ça il y a quelques temps. Il nous disait qu'aux États-Unis, 30 % des camionneurs ont recours à ça. Dans le domaine de la finance, c'est 19 % nos chirurgiens, 20 % qui utilisent des médications comme celle-là. Là, ça se demandait comment ça se fait que c'est pas prescrit. C'est des gens du domaine de la santé. Mais moi, le chiffre qui m'a fait tomber par terre, Valérie, ce sont les musiciens. 72 % d'entre eux utilisent des médications comme celle-là. Et dans leur cas, c'est souvent relié aux auditions et aux spectacles dans le but de calmer le stress.
Ouais. On sait qu'il y a toutes sortes d'autres affaires des fois dans ce milieu-là, après le spectacle, mais avant aussi. Alors. Bon, mais c'est juste c'est des généralités, là. C'est pas pour pointer du doigt personne. Puis, si on est confronté à cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, Valérie, si les gens sentent le besoin de prendre des médications pour être capable de tenir le coup au bureau, c'est parce qu'il y a un malaise. Et ça, là, tu me vois venir, je vais te dire, il va falloir parler du malaise. Bon, les gens sont évidemment libres de parler de leur consommation, mais des fois, les gens, ça, c'est un petit peu plus personnel. Mais le malaise, lui, c'est quelque chose qui devient d'intérêt pour l'équipe. Bon, d'abord, les malaises, souvent, ce sont des gens soit qui ont la perception que les autres sont tellement meilleurs qu'eux. Ils ont l'impression que les autres en font plus qu'eux, des meilleurs résultats, que c'est plus facile pour les autres. Ça, c'en est un malaise qui les habite. Le deuxième malaise, c'est souvent, ils ont la perception que les objectifs qu'on leur donne sont immuables. Si le patron a dit, il faut que tu gères 10 dossiers aujourd'hui, ils ont l'impression que je peux pas demander à mon patron si je pourrais en faire 8 ou 9. Il faut que ce soit 10. Alors que dans les faits, les patrons ont beaucoup plus de flexibilité sur les objectifs que cette rigidité-là qu'ils semblent percevoir. D'une façon ou d'une autre, Valérie, il est absolument anormal qu'un employé ait besoin d'avoir recours à ses substances pour faire sa prestation de travail normale. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, soit au niveau des objectifs, du processus, du leadership, de l'entreprise, il y a quelque chose qui va pas. Et il faut commencer par en parler pour être capable de trouver des solutions.
Ouais, ben l'information, c'est la clé, hein, pour évidemment éviter ce genre de situation-là. Annie Boiland, merci beaucoup. Demain, on se retrouve. Ce sera notre dernière de la saison la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir.
Puis on se fera nos souhaits de bonne année, là. Merci Annie.
Avec grand plaisir, bonne soirée.